Daiquiri.
L'émission LGBTQ transpé des bigouines de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
DKR
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you. You don't fucking know me.
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
DKR.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Bonjour, il est 18h, j'allais dire 19 en plus. Waouh, vous êtes bien sur Radio Primitive. Gwen et moi sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Daiquiri. On s'est quitté le mois dernier avec un sujet sur les meufs dans la musique.
Oui, avec la super Lucy Joy.
Voilà, nous avions comme invité la très chouette Lucy Joy à l'occasion de la sortie de son EP Courage. Et elle avait encore beaucoup de courage. Et moi je suis allée à sa release party. C'était dément, c'était super chouette. On a beaucoup rigolé, il y avait énormément de monde, mais ça ne m'étonne pas beaucoup de Lucy Joy et de son aura. Et voilà, c'était super sympa, comme l'émission qu'on a passée au final.
Et maintenant, donc, vous pouvez acheter son
album. En intégralité, vous pouvez même l'écouter en intégralité. Et puis peut-être que d'ici quelques émissions, on s'écoutera un autre extrait de cette EP. Aujourd'hui, on ne va pas parler des meufs dans la musique, on va parler d'un sujet tout aussi sérieux, n'est-ce pas? On va parler de personnes réfugiées, on va surtout parler d'une association. On aura le plaisir de parler avec Aude, l'association Ardis, d'ici quelques minutes. Pourquoi on a choisi ce sujet-là? Eh bien, parce que ça nous touche un petit peu
dans nos
pratiques.
Déjà, c'est des personnes LGBT, donc
bien sûr.
C'est dans le cadre de notre émission. Et en plus, dans l'association Execo, où on traîne pas mal, on fait du suivi justement de personnes LGBTQIA+. Donc on s'est dit, en ce moment, ça pourrait être pas mal d'en parler, avec surtout toutes les fausses idées qu'on peut entendre dans les médias généralistes. On va un peu débunker tout ça avec quelqu'un qui fait encore mieux le taf que nous, parce que l'association est vraiment dédiée que à ça. Mais elle vous présentera tout ça tout de suite.
Ouais, mais avant ça, on débute en musique avec une de tes sélections, une de tes sélections que tu as eu l'occasion de voir en vrai.
Oui, j'ai vu en concert il y a plusieurs années, je pourrais pas dire quand. Je me rappelle la salle, mais j'ai plus le nom là. Mais bon, c'était cool. Alors c'est Kek Da Killa, donc c'est un rappeur hip-hop américain qui fait partie, on va dire, de la scène queercore. Donc queercore, c'est un mouvement artistique de musique, de films, tout ça. Où c'est très punk, mais en même temps c'est très queer, donc LGBTQIA+, and whatever. Il fait des chansons depuis 2011, il a deux albums à son actif, le premier en 2016 et le dernier justement qui est sorti à la fin d'année 2022. Et là du coup le titre il est tout chaud et il s'appelle Swim Gully.
Il a pris le temps quand même, entre 2011-2022 quasiment.
Ouais, mais il y a deux albums mais il sort une tonne de trucs, des mixtapes.
C'est vrai que dans le rap ils aiment pas trop sortir des albums.
Il y a de la collab, non, il est bien actif, le coco.
Ok, bon,
c'est du coup un rappeur gay, bien, enfin visible, out, et ça fait du bien d'entendre du bon son avec des personnes LGBT.
C'est bien parce qu'il y a plein de rap encore aujourd'hui dans les élections qu'on vous a
en
faites.
En février, c'est du rap, voilà.
Voilà. Donc, Kek Da Killa, Svengali. J'espère que je n'ai pas prononcé pas correctement ce mot.
Son cousin suédois, Svengali.
Et puis on revient tout de suite après dans Daiquiri avec Aude de l'association Ardis.
What's good? Cakes, right? Yeah, I seen you around. What you drinking? I got you. You came here alone? Follow me.
Dark skin fox, drip down in Galliano. Trying to lay my backside right beneath your goggles. Pressing on my linen, tall enough to be a model. The type of fuck boy to get the flirting for a follow. Coming full throttle, X in the system. Give a bitch a space if you see me on a mission.
I'ma need my rider expedited from the kitchen. I'ma only say it once, and if I said it, then you listen. Life for the party, wrapped in rat Harani in a VIP section, chatting up a black Barbie. Gotta keep it close, quick rap, just like a sorry. You been trying to infiltrate since you beat me in the lobby. Something about this man I can't take. He looking at me, now I'm on a taste. Took me from the bar, hands around my waist. Now he whispering in my ear, asking how the pussy taste. Yeah. I know you touching me, but are you feeling me? Touching me, feeling me, touching me, feeling me, touching me, feeling me. I know you touching me, but are you feeling me? Touching me, feeling me, touching me, feeling me. Body, 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 body. You touching me, but are you feeling me? Touching me, feeling me, touching me, feeling me, touching me, feeling me. I know you touching me, but are you feeling me? Touching me, feeling me, touching me, feeling me. Body, the body, the body, the body. Let's see, how bad do you really want me? Everybody got a price and every booking got a fee. Looking at you, why you looking at me? And you looking like we know something to eat. Let's see, how bad do you really want me? Everybody got a price and every booking got a fee. Looking at you, why you looking at me? And you looking like I'm looking like we know something to eat. Sloppy, how I give up the tone so cocky. Copy, lock me in your phone, you got me. Knock knees, saying pressing my thumb so high key. Who else you know with complex flows besides me? Who else you know could get in they zone just like me? And if you think of any names, then please remind me. I'm too ill, man. Manifesting my shit precisely, I'm celibate, cause ain't any of you faggots can stop me.
Il y a un sample en fait dans ce son, c'était Cakes da Killa avec Svengali. Voilà, ça bougeait pas mal. Merci beaucoup Gwen pour cette ambiance musicale. Ce qui nous permet d'enchaîner avec notre sujet du jour aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir avec nous en direct Aude de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, soit l'ARDIS, de manière un petit peu plus facile à prononcer. Bonjour Aude.
Bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue avec nous dans cette émission d'Aïkiri en direct pour parler aujourd'hui peut-être de la situation des personnes réfugiées demandeurs d'asile. Tu vas nous parler de ton association, de l'association dans laquelle tu travailles et tu t'investis, qui s'appelle donc l'ARDIS. Est-ce qu'on peut déjà poser les bases, si tu veux bien, de ce que c'est l'ARDIS, peut-être de quand est-ce que ça a été monté, cette association ?
Bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, l'ARDIS, c'est une association qui va avoir 25 ans d'existence cette année, qui est née en 98. En fait, c'est une association qui est née du combat du PACS, et c'est une association qui a été fondée par des couples LGBT et binationaux. C'était, en fait, les couples où le partenaire étranger ou la partenaire étrangère était menacée d'expulsion du territoire, parce qu'il n'y avait aucun moyen de régularisation, parce qu'il n'y avait aucun moyen de reconnaissance légale du couple. Et donc, c'est très important de savoir que voilà, le premier combat de l'ARDIS, ça a été le PACS.
Mmh, okay.
Et donc, c'est une première union légale. Et bien sûr, ça s'est poursuivi avec le mariage en 2013. Cette problématique des couples binationaux ou des couples étrangers LGBT. Mais au sein de l'association, il y a une autre question qui a toujours eu une place importante, c'est la question de l'exil et la question de l'asile des personnes LGBT qui étaient persécutées dans leur pays d'origine. Et aujourd'hui, c'est notre plus grande part d'activité parce que on accompagne plusieurs centaines de demandeurs et demandeuses d'asile LGBT dans leur procédure d'asile et on continue d'accompagner une grosse centaine de couples binationaux LGBT.
Vous êtes basé où sur Paris, pas du tout?
On est à Paris, mais c'est une association qui a toujours eu un rayonnement national parce que c'est des questionnements assez spécifiques sur lequel on a quand même été très précurseur. Et du coup, même si on accompagne à peu près 80% de personnes d'Île-de-France, on a, dans notre champ d'action, dans nos outils, on sait accompagner des personnes à distance, des personnes de province.
Oui, parce que du coup, toi, vous vous déplacez, comment ça se passe? Enfin, remarque, depuis le Covid, je pense qu'on a pris l'habitude aussi de pouvoir communiquer par Internet directement.
Alors, il va y avoir des prises de contact qui vont être faites à distance, mais c'est pas toujours adéquat pour parler de d'événements assez traumatisants au pays. Et donc, dans ces cas-là, on peut financer le déplacement des demandeurs et demandeuses d'asile à Paris pour que les personnes rencontrent un bénévole ou une bénévole qui va les aider à parler de leur histoire pour convaincre les institutions de l'asile. Et on peut aussi, effectivement, échanger un petit peu à distance. Mais voilà, on a comme ça dans notre palette d'outils, ces possibilités.
Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le parcours, du coup, pour une personne réfugiée, pour justement avoir accès à des papiers?
Bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord, faut bien savoir une première chose, c'est que les personnes peuvent demander de l'asile une fois qu'elles sont sur le territoire français. C'est ce qui est prévu dans le grand texte qui régit les lois de l'asile, c'est la Convention de Genève, qui date des années 50. Les personnes, donc, avant de pouvoir demander l'asile, doivent atteindre le territoire. C'est une première partie sur laquelle on a ce déplacement. On n'a vraiment aucune... Nous, on peut pas aider. On est beaucoup contactés par des personnes qui sont en danger dans leur pays d'origine, mais tant qu'elles sont pas sur le territoire, on peut pas les aider. Et donc, avant cette demande, il y a toute une trajectoire migratoire qui est extrêmement difficile. Parce que c'est très compliqué d'obtenir des visas, c'est-à-dire que arriver en France par des voies légales, c'est extrêmement compliqué et c'est de plus en plus compliqué. Et donc, les personnes doivent souvent emprunter des chemins de migration qui sont des chemins dangereux. Je pense à des passages par des pays comme la Libye, où les personnes qui sont en exil, qui cherchent protection, sont exploitées, torturées, et après doivent traverser souvent la Méditerranée. Ce sont des traversées qui sont extrêmement dangereuses, où beaucoup de personnes trouvent la mort. Et donc moi, je voudrais, parce que ça, c'est un préalable qui est souvent invisibilisé, mais moi, je voudrais rappeler que d'abord, l'exil, c'est d'abord ce chemin-là qui est un chemin qui est extrêmement dangereux. Ça, c'est la première chose. Alors après, une fois que les personnes sont sur le territoire, elles ont le droit de demander l'asile, et le fait de demander l'asile, ça fait qu'elles sont légalement sur le territoire. C'est-à-dire qu'on peut pas les expulser tant que leur demande d'asile n'est pas examinée. C'est important à savoir. Il y a des règles assez complexes qui font que quand les personnes rentrent avec un visa d'un autre pays européen ou elles entrent par un autre pays européen, elles vont parfois être obligées d'aller déposer leur demande d'asile dans ce premier pays. C'est ce qu'on appelle le règlement Dublin, et ça, c'est une source de souffrance pour beaucoup de personnes, parce que, en fait, souvent, quand elles arrivent en France et qu'elles souhaitent faire leur demande d'asile en France pour des raisons qui leur sont personnelles, et ce règlement Dublin, il est source vraiment de souffrance pour les personnes.
Et puis, c'est censé pour répartir selon les pays la gestion des flux migratoires, sauf qu'en fait, on envoie autant de personnes qu'on nous envoie, donc au final, c'est... Ça empêche plus les personnes qu'autre chose, quoi.
Puis il y a des pays frontaliers qui n'ont pas les moyens. Moi qui ai bien étudié la Grèce, par exemple, qui est un pays d'entrée à l'espace Schengen, ils n'ont absolument pas les moyens d'accueillir les personnes correctement. Et donc du coup, ça crée des bouchons aussi dans ces villes d'accueil qui deviennent officiellement traités de Berlin direct, quoi, puisque tu arrives sur le territoire européen par là, quoi. Donc,
Effectivement, c'est un règlement qui est vraiment kafkaïen, mais au point où on se demande, d'ailleurs, si c'est pas un peu fait exprès, c'est-à-dire que ça crée énormément de souffrance, et on va le voir dans toute dans tous les aspects de la procédure d'asile, on n'est pas du tout dans une politique d'accueil des personnes, on est dans une politique de désaccueil, c'est-à-dire que c'est presque une politique officielle de décourager les personnes de rejoindre le territoire. Effectivement, dans ce règlement Dublin, enfin, y a plein de choses qui sont des discriminations spécifiques aux personnes LGBT, notamment le fait que c'est très difficile de faire reconnaître l'existence d'un couple homosexuel, et donc, parce qu'il n'y a pas d'union légale, hein, on revient dans les pays d'où ils viennent, de vie commune possible, et du coup on peut avoir des personnes qui sont séparées, c'est-à-dire une personne qui est obligée de faire sa demande d'asile en France et une autre personne qui est obligée de faire sa demande d'asile en Grèce. On constate aussi qu'on a des personnes qui sont menacées d'être renvoyées vers des pays très LGBT-phobes comme la Pologne ou la République tchèque ou la Hongrie, c'est-à-dire des pays où ils ont moins de chances que leur demande d'asile soit examinée positivement du fait de la xénophobie de certains pays, mais il y a de la xénophobie aussi en France et aussi des LGBT-phobies qui sont portées à un niveau important.
Parce qu'il faut rappeler que dans le monde, il y a 69 pays sur 193 où les LGBT sont interdits clairement, et il y a 11 pays où la peine de mort est une sanction habituelle, quoi. En sachant qu'en plus, il y a certains endroits, enfin ça on en parlera sûrement un peu après, mais c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de loi qui condamne l'homosexualité qu'elle n'est pas violemment réprimandée par la police ou par les gens en fait.
Même quand il y a une loi, d'ailleurs, ça ne protège pas des préjudices que tu peux subir quand même d'une discrimination, voilà.
Tout à fait. Effectivement, la géographie des LGBT-phobies est très complexe, avec des pays qui peuvent avoir des... On en parle souvent, hein, les pays qui condamnent, qui pénalisent les relations homosexuelles, voire jusqu'à la peine de mort, mais aussi certains pays qui ont des législations qui sont progressistes. Je pense à l'Afrique du Sud qui reconnaît, qui a ouvert le mariage aux personnes de même sexe. Je pense aussi au Brésil où c'est possible de faire une transition de genre, par exemple, mais ça n'empêche pas que c'est des pays qui sont très, où la société reste très LGBT-phobe et où les personnes sont tout à fait légitimes à faire une demande d'asile et obtiennent le statut de réfugié.
Au Brésil, le nombre de meurtres, on le voit chaque année au Tidor, il vient principalement de cette région au niveau des personnes trans, quoi.
Tout à fait, c'est effectivement un pays où le taux de meurtre est très important. Oui.
Qui vient d'un ancrage aussi religieux assez fort, et puis de plein d'autres raisons, hein, puisque Bolsonaro se vantait aussi de chasser les homosexuels, donc il y avait aussi quelque chose d'assumé de politiquement, quoi.
Donc, effectivement, c'est une région du monde d'ailleurs où nous on a eu de plus en plus de personnes, que ce soit venant du Venezuela ou du Brésil, on a constaté qu'il y avait plus de personnes qui venaient de ces pays qui sollicitaient l'aide de notre association. Après, les pays les plus représentés dans les personnes qu'on accompagne, c'est d'abord l'Afrique subsaharienne, en premier lieu le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et pour les femmes, la RDC, hein, qui sont des pays qui peuvent être très violents vis-à-vis des personnes LGBTI. Je pense notamment au Sénégal, où il y a quelques années était presque considéré comme un paradis gay, et qui aujourd'hui est un pays où les relations homosexuelles sont pénalisées et où il y a régulièrement en ce moment des manifestations pour intensifier cette pénalisation, la doubler, c'est-à-dire de passer de 5 ans de prison à 10 ans de prison. Donc c'est une pénalisation qui est pas forcément appliquée intégralement, mais en tout cas des gens sont poursuivis, sont enfermés, passent devant des juges pour ces raisons-là. Donc c'est effectivement extrêmement, extrêmement difficile pour les personnes LGBTQI.
Tu nous parlais tout à l'heure au niveau de ton association, du fait de sa création, que c'est venu par des personnes concernées en fait, qui ont décidé de répondre à ce fait de ne pas pouvoir se réunir en famille, c'est ça? Est-ce que aujourd'hui le tissu bénévole de ton association, l'ARDIS, il a évolué, ou encore où les bénévoles ont un peu ce même type de profil et c'est des gens concernés en fait qui veulent s'investir?
Alors nous on est vraiment une association LGBT qui est née du milieu LGBT, qui est une association communautaire, donc intégralement les personnes qui sont engagées sont LGBTI. Ça, c'est important de savoir parce que, en fait, nous, on a plus de, dans notre travail interassociatif, on va beaucoup plus être en contact avec des associations qui défendent le droit d'asile que avec des associations LGBT plus généralistes parce qu'on va avoir des problématiques qui sont assez différentes, en fait, d'autres associations. Donc, nous, on a cet ancrage communautaire très important. Ça reste une association où on a beaucoup de personnes qui sont en couple binational. On va avoir moins de personnes qui sont directement concernées, notamment par le statut de réfugié, enfin le fait d'avoir fait une demande d'asile, même si on a certaines personnes qui ont souhaité s'engager au sein de l'association, soit pour aider les autres en tant que bénévoles, soit pour participer à la gouvernance au sein du conseil d'administration. Mmh.
Petite zik avant la suite.
Oui, on va se faire un petit break musical si tu le veux bien, Aude, et on reviendra auprès de toi juste après.
Oui, pour parler
après.
De l'OFRA et de la CNDA.
Oui, on a encore pas mal de choses à discuter avec toi qui vient de l'ARDIS, donc je le répète, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour. C'est un peu un défi de lire
de
ce
le dire,
nom,
oui,
c'est pour ça que j'aime bien le dire. Mais voilà. On te retrouve d'ici quelques minutes, juste le temps de se passer une petite musique, et cette fois-ci je prends le lead, merci Gwen de me le donner, avec une artiste hip-hop indépendante, tu vois, comme quand on change de style, encore une fois.
Une
poète même, oui, voilà, elle se fait appeler comme ça. Elle s'appelle, je ne sais pas si c'est son nom complet, Einare Lynn Aisha Susan, avec le umlaut, c'est pour ça que j'ai dit le Susan. Elle est aussi connue en tant qu'artiste, en tant que tabou punks. Elle est née en Allemagne, d'où le umlaut. Mais au final, elle a très vite déménagé aux États-Unis. Et ce qu'on va écouter, c'est un extrait de son dernier album qui est paru l'année dernière et qui s'appelle Pendulum Thought, ça s'appelle très judicieusement Weird Society.
We know that American capitalism is morally right because its chief elements, private ownership, the profit motive, and the competitive market are wholesome and good. They are compatible with God's laws and the teachings of the Bible. And lastly, we know that with her unique economic system,
I feel a lot easier in doing this, in saying this. Nevertheless, I decided I might as well act like a nigga.
Tell me, do you like respect? And when you cash your check, right there with the bank teller, do she look you in your eyes? Just clocked out from 9 to 5. Do she treat you like you gifted? Or she treat you like you different? Like, do you got a flex? They got that noose around your neck. And tell me, do you value self-expression? Do you know your soul and flesh? And grandma came from Bama, now she live in Detroit, Michigan. Call that great migration. My mama's immigration. She from Central Asia, came to the melting pot of ethnicities and races. Her first employers were Caucasian. Now she's self-employed, they traded places. That man gon' tell you you can't make it, but you know your destination. Sometimes I hate the gas station, that's where men catcall. Say I'm a bitch cause I don't date them. Orthodox say I don't equate them. Shun me cause I eat pussy. Bible say I'm Satan. I guess we all the same then. Secular doxology, mainstream toxicology, America's dichotomy. Stars and stripes don't father me, but them white lies bother me. Yeah, them white lies bother me. She got the good head on her shoulder. Fight for the struggle, sip on some Foja. Told me that black people also own Bossa Nova. Used to be a Jehovah from Genoa. Then she moved to Kenosha. But black people don't feel better in Kenosha than they do in Genoa. So I knew it was over, over. Oh well, baby be nice to me. Fuck it, oh well, maybe you shite. Oh well, niggas be trifling. Fuck it, oh well, that's why I'm feisty. Oh well, fuck it, everybody ducking. Hide who you fucking. You hate your wife, you hate your life, you hate your husband. Undercover brothers, undercover lovers, hide it undercovers, undercover summers. Delete my number, better use a rubber, congested mind. Unclog with a plunger, undercover governs you. Your boo tell you what to do, police tell you what to do, TV tell you what to do, Bible tell you what to do. You don't even like them shoes, somebody told you that you do. Now you hide your truth, now you hide taboo. So what that mean to you? Look at me, I'm a clown, look down now, who wrote the script? Down. She got the good head on her shoulder. Fight for the struggle, sip on some Foja. Told me that black people also own Bossa Nova. Used to be a Jehovah from Genoa. Then she moved to Kenosha. But black people don't feel better in Kenosha than they do in Genoa. So I knew it was over, over. Oh well, baby be nice.
Fuck it up well, baby you shiesty. Oh well, hell, niggas be trash. Fuck it up well, that's why I'm feisty. You at the strip club with a bad bitch and Henny. You think you hot shit, got two chains on and your belt on Fendi. Keep up with the tabloids on your iPhone so you know what's trending. Pulling double shifts to keep up with the times and the government got you spending. Oh well, hell, fuck it, oh well, fuck it, go tell, fuck it, go trail, fuck your hotel, hoes in the hotel, wearing Chanel, fuck it, go sell, wish you well, I wish you well, like what's up, yeah, what's up, you boss up, everybody boss up, you boss up, ayy. Baby, be nice to me, baby, you shiesty, ayy, niggas be trifly, ayy, that's why I'm feisty, don't try to bite this, yourself rages. I'm repelling to bullshit that grow and I build. I'm like a cypress. Baby, be nice to me. Baby, you shiesty. Niggas be trifly. That's why I'm feisty. Don't try to bite this. Bitch, yourself righteous. I'm repelling to bullshit that grow and I build. I'm like a cypress.
Professor Gaines, aren't the majority of our families in the lower income brackets?
Not at all, John. For the wealth produced within American capitalism.
Gwen, vous ne voyez pas, mais elle fait toujours les voix, ouais, les voix off. Bienvenue à vous. Vous êtes, dans notre direct de Daiquiri, votre émission LGBTQIA+, et surtout Gwen à Reims. Nous sommes en direct sur le 92.4 FM avec Oud de l'association Ardis. Nous étions en train de parler justement de la situation des personnes réfugiées et de leurs conditions d'arrivée en France. On était sur ce chemin-là. Comment et les différents parcours pour arriver sur le territoire français.
Et maintenant qu'elles sont là, qu'est-ce qui se passe pour elles?
Alors, une fois qu'elles ont franchi toutes ces barrières, à savoir donc le parcours migratoire, l'assurance que leur demande d'asile soit enregistrée et examinée en France, elles vont devoir passer devant les institutions d'asile. Alors, les institutions d'asile, il y en a deux. Il y a d'abord l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, qui est une instance administrative et qui va examiner leurs demandes. C'est une instance, ça a été créé dans les années 50. Ça examine les demandes d'asile depuis ce temps-là.
L'OFPRA, il y en a pas une par ville. Comment ça marche?
L'OFPRA, c'est vraiment centralisé à Paris. Parfois, ils peuvent les officiers de protection ou officières de protection, parce que c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui vont examiner les demandes, vont se déplacer dans certaines villes, mais en gros, l'entretien, il a lieu à Paris. Pour les personnes LGBT, c'est la demande d'asile, c'est assez particulier puisque elles doivent convaincre qu'elles sont bien LGBT. Évidemment, ça, c'est une mission impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver qu'on est bien LGBTQIA+. Il n'y a pas de preuves matérielles. En Europe, il y a eu des tentatives de preuves, des tentatives qui ont souvent été indignes. Je pense à la République tchèque, par exemple, qui avait mis en place des tests phallométriques, c'est-à-dire des tests de mesure de l'excitation des hommes, notamment devant des porno gays. Il y a eu aussi des tests psychologiques, je crois que c'était plutôt la Belgique, en 2018. Tout ça, ça a été très lourdement condamné par la jurisprudence européenne.
Heureusement.
Ce sont évidemment des pratiques indignes, mais c'est aussi l'échec de toutes les tentatives d'objectiver la décision. Donc en fait, il reste tout ce qui reste pour décider de si une personne est LGBT ou non, c'est l'intime conviction des personnes qui décident. Donc au niveau de l'OFPRA, c'est les officiers officières de protection. Et donc cette intime conviction, c'est évidemment basé beaucoup sur les représentations que ces personnes ont d'une personne homosexuelle au Sénégal, d'une femme lesbienne en Géorgie, d'une personne trans au Brésil, quelles sont leurs vies quotidiennes. Et ce sont des personnes qui souvent n'ont jamais mis les pieds dans les pays d'origine, ne sont pas LGBTQIA+, ont assez peu d'informations sur la vie quotidienne des personnes LGBTQI dans ces pays. Tout simplement parce que dans des pays où c'est pénalisé, ça veut dire que c'est une vie qui est souterraine, qui est peu communautaire, c'est-à-dire qu'il y a peu d'associations, peu d'endroits où se regrouper, il y a peu de renseignements, et donc c'est difficile de connaître une vie quotidienne. Donc en fait, les officiers officières de protection n'ont pas forcément des points de comparaison entre le récit que les personnes qui demandent l'asile vont décrire et la réalité des situations dans les pays d'origine.
Ouais, puis entre les clichés qu'ils peuvent avoir étant pas de la communauté, plus peut-être la vision européenne centrée qu'ils peuvent avoir de ce qui est être gay ou lesbienne ou trans, ça peut justement créer beaucoup de difficultés. Et puis comme tu disais, ouais, rendre visible quelque chose qui est clandestin, c'est super compliqué, quoi.
Alors là, effectivement, la première des difficultés, c'est que les personnes qu'on accompagne, souvent, elles ont caché toute leur vie le fait qu'elles étaient homosexuelles, elles n'en ont pas parlé, elles ont des difficultés à le verbaliser. Souvent, parfois, le seul mot qu'elles ont dans leur langue maternelle, c'est un mot insultant, un mot comme PD, un mot comme... ce sont les seuls outils qu'elles ont pour décrire une réalité. Le milieu des associations, elles existent. Il y a toujours des formes de résistance, il y a toujours des formes d'organisation, mais simplement, elles sont pas. Il y a des pays où c'est quand même très dangereux, donc elles sont peu visibles et elles sont peu accessibles pour la majorité des personnes. Et donc, ces outils-là, ils sont peu utilisés. Donc, ce sont des personnes qui ont toujours caché leur orientation sexuelle, leur transidentité, qui parfois l'ont caché à eux-mêmes, parfois ont intériorisé. Des formes de LGBTQI-phobie, et donc qui, du jour au lendemain, doivent en parler ouvertement aux institutions, dans un pays qu'elles ne connaissent pas, à des inconnus, parler de leur intimité. C'est des questions comme comment vous avez compris que vous étiez homosexuel, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes tombé amoureux, qu'est-ce que ça vous a fait de vous rendre compte que vous étiez homosexuel par rapport à votre religion. Enfin voilà, ce sont des questions qui peuvent être qu'est-ce que vous aimiez chez votre premier petit ami. Ce sont des questions qui, même si elles n'abordent jamais les pratiques sexuelles parce que c'est interdit par la jurisprudence, ce sont des questions qui sont extrêmement intimes et qui vont exiger des demandeurs et demandeuses d'asile beaucoup d'introspection, beaucoup de raisonnement logique, d'ordre chronologique des faits, beaucoup d'exigences comme ça sur la façon de présenter le récit, qui n'est pas toujours adaptée à des personnes qui sont psychotraumatisées et donc qui parfois ont des amnésies, qui parfois ont du mal à reconstituer des faits, vont pas toujours être adaptées à des personnes qui ont été peu scolarisées et donc qui vont pas avoir forcément des facilités justement à comprendre les attentes de l'institution et à y répondre en termes de récits, de logique, des événements, de chronologie des faits. Et tout ça fait que on a malheureusement un certain nombre de rejets des demandes d'asile des personnes LGBT, QI+, à l'OFPRA.
Ouais, puis au-delà du parcours que tu as dit qui pouvait être traumatisant, la plupart du coup ont quitté le pays parce que justement il y a eu souvent des événements encore plus durs, la mort d'un compagnon, la découverte de son homosexualité avec des coups, peut être arrêté par la police, faire de la prison, devoir se sauver, enfin des choses vraiment horribles qui les ont fait quitter leur pays et du coup se retrouver sur les routes sans rien. Et en plus là tu disais sur le côté preuve, on pourrait penser à des preuves matérielles qui pourraient être intimes, des photos avec son copain, tout ça, mais que la plupart, vu qu'ils partent un peu du jour au lendemain, parce que la situation de danger est imminente, du coup, se retrouvent sans rien, donc sans preuve justement que l'OFRA pourrait demander, en fait.
Oui, puis en sachant que si, par exemple, t'as une photo de toi et ton conjoint et que tu risques, à cause de cette photo, l'emprisonnement ou que sais-je, t'en as pas. ça me semble un peu logique, donc pour prouver ce que tu peux pas prouver, c'est compliqué, quoi.
Bah, effectivement, vous avez évoqué deux éléments importants à avoir en tête dans la construction de ces demandes d'asile, c'est-à-dire la quasi-impossibilité de disposer de preuves matérielles pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Une fois qu'il y a un rejet de l'OFPRA, les demandeurs et demandeuses d'asile vont pouvoir exercer un recours qui se fait devant la Cour nationale du droit d'asile, qui est là aussi est basée à Paris. Alors là, on entend dans le nom, c'est plus une juridiction, c'est plus une
administration.
Une administration. Là, maintenant, c'est une juridiction, c'est une cour.
C'est d'ailleurs
la plus grande cour en termes de dossiers traités en France. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'elles ont d'abord l'assistance d'un avocat ou d'une avocate alors qui est pris en charge par l'État, enfin, au titre de l'aide juridictionnelle. Et ça veut dire aussi que les personnes qui jugent, ben, ce sont des juges, justement. Alors parfois ce sont des gens qui sont magistrats, magistrates. Parfois ce sont des personnes qui vont être nommées par des instances indépendantes comme le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, et qui sont chargées d'examiner les demandes. Là aussi, on va, c'est pareil que devant l'OFPRA, c'est-à-dire ce qui va compter, c'est vraiment l'intime conviction des personnes qui décident, c'est-à-dire les juges. Aujourd'hui, les dossiers peuvent être examinés soit par un juge unique, soit une juge unique, soit par une formation collégiale de trois juges, dont un qui est désigné par le commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on remarque là, c'est qu'on est face aux mêmes difficultés qu'à l'OFPRA, c'est-à-dire c'est vrai, comme c'est vraiment basé sur l'intime conviction, mais là aussi, on voit que sont mis en jeu vraiment les représentations des juges, c'est-à-dire que c'est eux qui vont décider est-ce que ce récit de la personne est crédible ou non, est-ce qu'il est crédible ou non que cette personne soit LGBTQIA+. Et là, on va voir un petit peu, sans doute d'ailleurs un peu plus qu'à l'OFPRA, on va voir vraiment les diverses sensibilités des juges qui vont s'exprimer. Et comme ce sont des juges indépendants, des magistrats, là, il n'y a pas de hiérarchie, contrairement à l'OFPRA. Il y a très peu de formation. Et là, c'est même si c'est sans doute moindre qu'il y a quelques années, ça reste un endroit où des questions indignes sont encore posées.
Et cette procédure, du coup, elle peut, là, tu parlais des deux chambres, elle peut être très, très longue.
Oui, en tout, ça peut être très long. Ça dure plusieurs mois, entre 6 mois et 1 an et demi, je dirais. En fait, c'est pas tant l'attente qui est difficile, c'est le fait que c'est l'inconnu total. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes peuvent attendre, par exemple, la réponse de l'OFPRA 3 mois, 1 mois, 6 mois, 9 mois, parfois 1 an. Et en fait, elles ne savent pas. Enfin, c'est vraiment une situation qui est horrible et méprisante et totalement... vraiment, c'est vraiment peu le cas de ce que les gens peuvent ressentir. C'est-à-dire que parfois, ils attendent. Contrairement à des fonctionnements normaux d'administration où on a une idée de quand sera traité le dossier, ben là, en fait, elles ne savent pas. Et donc, en fait, elles sont susceptibles de recevoir une lettre tous les jours.
Une lettre avec du coup un OQTF pour leur demander de quitter le territoire si elles sont en fin de procédure.
Ouais, c'est effectivement s'il y a un rejet, dans les décisions qui sont en rejet, ça peut être une obligation de quitter le territoire, ça peut arriver dès l'OFPRA, dès le rejet de l'OFPRA, ça peut arriver aussi après après la réponse de la cour. Et c'est surtout des vies qui sont vraiment suspendues, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui attendent pendant des mois sans savoir quand ça va prendre fin, dans des conditions de vie qui sont parfois très précaires, quand même souvent très précaires. Voilà. Normalement, selon les textes européens, tous les demandeurs et demandeuses d'asile devraient être hébergés. En France, on sait que moins de la moitié le sont, que ce sont surtout en priorité sont hébergées les familles et les femmes seules. Et il faut savoir qu'en majorité, les personnes LGBT qui demandent l'asile sont des hommes cis gays. Donc, c'est le public qui est le moins hébergé par l'État. Et nous, dans les personnes qu'on accompagne, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout, hébergées. Quand les personnes sont hébergées, elles sont souvent envoyées dans des endroits au fin fond de...
Ouais, des régions très reculées où il n'y a pas de personnes racisées. Et où, du coup, c'est pas de comité LGBT, donc où c'est encore plus dur de vivre l'isolement. Parce qu'en plus, pour débunker, non, c'est pas des châteaux qu'on leur offre, c'est une piole entre une salle de prison ou un crous. Et en plus, comme on dit, vu qu'ils ont pas, ils sont en cours de demande de papier, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc c'est-à-dire que pendant des années, on va attendre sans pouvoir faire grand-chose, avec justement juste ces terreurs, tout le vécu qu'on a eu, avoir cette peur de se faire virer du jour au lendemain. Donc ce qui est psychologiquement super dur, et avec du coup un suivi psy qui est pratiquement nul. Enfin,
Tout à fait. Donc c'est des conditions de vie très précaires. Et dans le pire des cas, soit les personnes ne sont pas hébergées et touchent une allocation qui est inférieure au RSA, donc qui ne permet pas de vivre dignement, soit rien du tout. sont privés et de l'hébergement et de la location. Et ça, c'est de plus en plus le cas. Aujourd'hui, sans doute, la moitié des demandeurs et demandeuses d'asile ne touchent rien du tout. Et donc, comme tu le précisais, et c'est important de le savoir, dans la mesure où ils sont privés du droit de travailler ou du droit de se former, et ben, ce sont des personnes qui sont vraiment jetées dans le dénuement le plus total. Et ça a des conséquences très concrètes hein, sur leur santé mentale. Ça rend fou, en fait, d'attendre une réponse. Avec la menace d'être envoyé dans son pays où on risque la mort et en même temps d'être complètement jeté à la rue.
Bah, le rejet, quoi, ouais, ouais, tout ouais. simplement. Mmh,
mmh. Et actuellement, du coup, il y a une loi qui va peut-être empirer ça. Tu peux nous en parler un petit peu?
Bien sûr. Alors, il y a eu de nombreuses lois hein, ces dernières années sur les questions de migration. C'est très clair que ce sont des lois qui sont faites pour envoyer des messages à la droite et à l'extrême droite et pour plaire à cet électorat. Là, on est sur une loi, enfin la dernière, hein, c'était la loi Collomb en 2018. C'était déjà une loi qui avait beaucoup aggravé qui avait détérioré les droits des demandeurs et demandeuses d'asile. Et là, on s'apprête à affronter une nouvelle loi qui est aussi une loi de détérioration de leurs droits. Les aspects qui sont liés à l'asile sont plutôt minoritaires par rapport à d'autres aspects, mais ils restent importants. Ça va concerner d'abord le fait que les recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne seront plus examinés que par un seul juge unique.
Les trois.
Il n'y aura plus cette formation collégiale. Alors pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand il y avait trois juges, bah certes, il pouvait y en avoir un, deux, même trois hein, qui avaient des clichés dans la tête. Mais en fait, quand les personnes sont trois, elles sont obligées de se parler pour en décider de la décision. Et donc, qui dit se parler, dit formuler des choses à voix haute, dit s'entendre dire ses propres clichés, les confronter ses représentations aux autres. Et dans le cas des demandes d'asile LGBTQI+, où vraiment c'est l'intime conviction qui décide, en fait, le fait qu'il y ait de la collégialité, le fait qu'il y ait de la discussion, le fait qu'il y ait de la confrontation, même de représentation, même de clichés, ben on sait que c'est une garantie de droit pour les personnes. Ça évite l'arbitraire, c'est une réduction de l'arbitraire en tout cas. Donc ça, c'est extrêmement grave pour les demandes d'asile LGBTQI+. La deuxième chose, c'est que la Cour nationale du droit d'asile va être territorialisée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des antennes de la CNDA sur tout le territoire, alors dans les ressorts des cours d'appel, donc c'est des grosses régions. Ça, c'est bien de rapprocher la justice des requérants. Le seul souci, c'est que ça ne s'accompagne pas de garanties de formation des juges et des magistrats sur place, des garanties de formation des avocats et des avocates, des garanties de formation des interprètes, voire même que les personnes ont des interprètes dans leur langue dans toutes les régions. Et donc, avec beaucoup d'incertitudes sur notre capacité, nous, les associations, à exercer une surveillance, à faire un contre-pouvoir et à être en mesure d'aider, de conseiller les personnes sur tout le territoire, sachant que, enfin, je sais bien hein, qu'il y a plein d'associations LGBT en province, mais nous, on sait dans notre travail quotidien que tout le territoire n'est pas couvert. Et tout le territoire n'est pas couvert par des associations LGBT qui se sont spécialisées sur ces questions. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète, parce que pour nous, on anticipe vraiment des retours en arrière en termes de procédures, en termes de questions indignes, en termes de mauvaise formation des avocats-avocates qui sont parfois un peu... qui n'ont pas trop exploité la précarité des personnes qu'elles conseillent sur ces questions-là. Donc là, ça, c'est quelque chose qui nous inquiète pas mal. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est la création d'espaces français ville au sein des préfectures. Bon, c'est un peu technique, mais tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que aujourd'hui, les personnes, elles enregistrent leur demande d'asile à la préfecture et elles vont donner le motif de leur demande d'asile à l'OFPRA, donc les choses sont complètement séparées. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la préfecture qui s'occupe des documents administratifs et de l'autre, on a l'OFPRA qui s'occupe vraiment du contenu de la demande d'asile et qui garantit la confidentialité du motif. Bon, là, il est question de tout mélanger, de faire un espèce de guichet unique. Et en fait, ça signifie que les demandeurs et demandeuses d'asile se rendraient à la préfecture pour enregistrer leur demande. Ils passeraient de bureau en bureau pour remplir des formalités administratives. Et tout d'un coup, ils se seraient devant un officier de protection de l'OFPRA et ils devraient dire qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est pas du tout adapté aux personnalités qui ont toujours caché qu'elles étaient homosexuelles ou leur transidentité. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Cette démarche-là, elle est pas du tout respectueuse de l'intimité des personnes, de la garantie de confidentialité des motifs de la demande d'asile. Enfin, c'est vraiment tout le contraire de la façon des bonnes pratiques. Et nous, on anticipe vraiment des personnes qui n'évoqueront plus leur orientation sexuelle ou leur transidentité comme motif de demande d'asile, parce que ce sont des conditions qui sont complètement inappropriées.
Donc votre asso plus d'autres assos LGBT, du coup, vous essayez de faire pression pour essayer d'empêcher ça, ou au moins qu'on écoute la voix des personnes réfugiées LGBT, quoi.
Absolument, on essaie de faire valoir toujours la spécificité des personnes LGBT. Par exemple, une autre spécificité, c'est que là, il est question d'ouvrir le droit au travail pour les demandeurs et demandeuses d'asile, mais seulement pour des nationalités qui auraient un fort taux de protection. En gros, si on prend l'exemple de ces dernières années, ce serait des pays en guerre, je pense notamment à l'Afghanistan ou à la Syrie. Si on regarde les nationalités qui ont un fort taux de protection, les pays où les personnes LGBT sont persécutées, comme le Sénégal, en fait, il n'y a pas un fort taux de protection, parce que c'est une demande d'asile qui est assez spécifique, qui n'est pas liée aux guerres, qui n'est pas liée, qui a ses propres ressorts. Et du coup, on sait que les personnes qu'on accompagne, alors elles bénéficieraient vraiment de ce droit de travailler, ça leur permettrait de s'autonomiser de leur communauté d'origine et d'éviter d'être confrontées à nouveau à des LGBT-phobies, ou en tout cas les réduire, elles sont complètement privées de ce droit au travail. Donc nous, on essaye de faire valoir la spécificité de cette demande, justement pour expliquer qu'il n'y a pas que... l'asile, ce n'est pas simplement des personnes qui viennent de pays en guerre. C'est aussi des personnes qui ne peuvent pas vivre comme elles le souhaitent dans leur pays d'origine et qu'il faut en tenir compte.
Ok.
Comment on peut contacter ton association, justement, que ce soit pour avoir des renseignements, si les personnes ont une question, ou même s'ils se sentent peut-être concernés par la cause et qu'ils souhaitent avoir des renseignements sur le bénévolat chez vous, par exemple?
Alors nous, on est très heureux, très heureux et heureuses d'accueillir une nouvelle personne. Alors, on fonctionne comme beaucoup d'associations, on fonctionne par un système de permanence pour les personnes qui sont notamment les demandeurs et demandeuses d'asile qui sont en Île-de-France, qui sont le samedi matin dans nos locaux à Paris, dans le 20e. Et c'est la manière la plus simple de prendre contact avec nous. Évidemment, pour les personnes qui seraient éloignées en région, il est possible de nous contacter à distance. On a une boîte mail à laquelle on essaye de répondre le plus possible. Et puis sinon, il est possible aussi de prendre contact par une adresse dédiée avec nous pour proposer des missions de bénévolat qui sont extrêmement importantes. Enfin, l'association vit essentiellement d'ailleurs des actions bénévoles. Que ce sont intégralement des bénévoles qui aident les demandeurs et demandeuses d'asile dans leur procédure d'asile.
Et pour finir, votre association fait aussi des formations vers les professionnels, ça c'est important de le dire.
Tout à fait, c'est quelque chose qu'on a développé depuis 2021 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt des institutions pour ces questions-là, et notamment des associations qui hébergent demandeurs et demandeuses d'asile. Voilà, il y a un certain nombre de places spécialisées qui ont été mises en place. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même, il reste quand même des déficits de formation. Et donc on forme les professionnels, les intervenants, intervenantes sociaux, aux spécificités des questions LGBT. On forme aussi les interprètes aux questions LGBT. Et puis on n'espère pas un jour de former les juges.
J'allais dire les juges, oui.
Les avocats et les avocates, ou les juges officiers de protection de l'OFPRA, qui ont déjà une formation, mais en interne. Voilà. Mais les juges et les avocats, c'est parfois des professions qui... c'est difficile de les aider à identifier des besoins de formation.
Ah bah quand t'as fait ce nombre d'études voilà, aussi, voilà, c'est ça, tout, okay. Tu veux plus te former après, t'es dégoûté des études, voilà. Merci beaucoup,
oui, merci
Aude,
beaucoup.
De nous avoir parlé du travail déjà de ton association Ardis, mais aussi de la situation des personnes qui sont en demande d'asile pour des causes LGBT. On y voit un petit peu plus clair, et encore une fois, les associations LGBT ne font pas toutes, n'ont pas toutes les moyens en plus de faire ce travail, donc on vous remercie aussi pour les formations que vous attribuez aux bénévoles comme nous qui s'investissent dans des associations, parce que votre savoir il est précieux, et ça nous permet de ne pas faire d'erreur sur des trajectoires de vie qui sont déjà hyper hyper compliquées comme tu as pu nous l'expliquer, et qui n'ont pas besoin qu'on vienne faire d'erreur en plus, nous qui tentons juste de les accompagner correctement quoi. Donc on va te laisser là dans Daiquiri, on va passer à de la musique pour vous laisser sur un petit agenda des événements que l'on prévoit pour le début du mois de mars, parce que oui on est en février mais nous on se projette les amis. On se passe un Mickey Blanco, t'explique le tout après, ok,
oui.
Au revoir à toi Aude, et merci encore beaucoup,
merci encore.
De nous avoir partagé ton expérience avec l'association Ardis.
Merci pour l'invitation.
Black and gay, I wonder if they'll ever claim us. HIV, I got HIV, can I still be famous? Will they wait till I'm dead to give me credit? These thoughts run through my head, I try and dead them and just bless God instead. I've been with this shit since 2012. My nigga made it out through personal hell. My nigga J-Lo to sell, I figure this. Life is but a gift. Let me clean my chakras so I can talk to you proper. Beware of false idols popping off like they prophets, profiting from your pockets. That's just not cute. That's just not true. The light aside is blinking. I know all these people thinking I'm about to show out. Clarity over clout. What's the point of being blessed if your head's a fucking mess? Mama, cue the drama, kill the trauma. Say it like the Dalai Lama. Be kind, be wise. Keep that mental temple simple. All truth, no lies. Dreams I keep dead in the night. Push me, I got to wear, yo, I got to fight. For every little queer, every kid alone with fear, every kid that's dressing up and dressing out, just being them. Seeing them on CNN, they spouting hate. This country blood was never really that fucking great. Black imprisonment, genocide, the Indian immigrant, detention men, dope fiend, these kids again. My life, young jet set and feminine. This is for my sisters, keep blessing them. I look inside my soul, I ain't stressing, man. I know who I am. God bless them, man.
Give me your hand, I'll never let you go. Give me your hand, I'll never let you go.
Hey, you!
Oh, that's right.
Yeah, yeah, I have the permits for this one, but no, I have the permits for this one. This thing is really...
No chain, no lock, no leash, nobody gon' stop, step on my feet. Hands up, don't shoot, can't breathe, my people gon' rock, gon' win, gon' sing. No chain, no lock, no leash, nobody gon' stop, step on my feet. Hands up, don't shoot, can't breathe, my people gon' rock, gon' win, gon' sing.
Alors, on vient d'écouter Niki Blanco avec Carry On feat. John C. Donc, Niki Blanco. Donc, Niki Blanco, c'est une rappeuse, poète et militante LGBT américaine. Donc, elle a commencé par un recueil de poèmes en 2012 et ensuite elle s'est lancée dans le rap. Elle a des inspirations dans le Riot Girl et le queercore qu'on parlait tout à l'heure, avec surtout les influences de, du réalisateur Bruce LaBruce qui fait du porno gay, psychédélique que je vous conseille. Elle a fait son coming out trans, alors j'ai l'impression il y a très peu de temps, je dirais 2022, et un fait marquant qu'il y a eu dans sa vie, c'est qu'en 2015 elle a fait un coming out sur les réseaux de, du fait qu'elle était séropositive depuis 2011. À ce moment-là, son univers est quand même très festif, très fun, et en fait elle voulait arrêter la musique en disant ben non, là je vous parle de sida, c'est quelque chose de pas fun, donc du coup ma carrière elle va peut-être s'arrêter, et en fait elle a eu plein de soutien sur les réseaux, et du coup depuis elle a pu continuer jusqu'à mieux se connaître et devenir la magnifique rappeuse qu'elle est maintenant.
Et ça, ça fait du bien quand même d'avoir le soutien de sa fanbase.
C'est beau, c'est beau.
Eh bien voilà, on va vous faire un agenda,
l'agenda.
En à peu près une minute et demie, n'est-ce pas? S'il y a une émission après, il y a la grotte à mes potes.
Allez,
après. Alors on va leur laisser la place bientôt. Mais on va, au mois de février, on fait plus rien. On a décidé que, en fait, si on fait plein de choses, mais on va pas vous parler du mois de février. On débute avec l'après-midi du 4 mars, avec une formation qu'on vous propose. Et c'est pas souvent qu'on vous propose une formation. Une formation qui est donnée par le collectif Riposte. Non, pas du tout.
Si, Riposte Collective.
Voilà, si je vais y arriver.
Qui se passera du coup le 4 mars à 14h à la MVA, donc la Maison de la Vie Associative, donc dans la salle, juste à l'entrée de la MVA, c'est une salle de petite conférence où vous pouvez venir pour justement apprendre des choses sur comment vous protéger en manif.
Eh, ça, c'est plutôt
c'est
utile
très important,
en ce
surtout en ce moment, avec les manifestations qu'il y a.
Et justement, juste avant, c'est le 4 mars, parce que le 7 mars, il y a manif.
Eh, comme ça, vous serez préparé pour la manifestation contre la réforme des retraites le
7 mars.
Sixième
du nom. Sixième édition, sixième manifestation enchaînée.
Et après cette formation, il y aura une petite soirée au local d'Execo pour fêter le 8 mars en avance. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Mais bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Et oui, 25 rue du Jard.
25 rue du Jard. Oui, c'est ici le 26. Pardon, excusez-moi, je mélange tout.
Autre chose, le 12 mars, on vous invite encore au local d'Execo.
Oh là, t'as sauté tout un tas de...
Bah non.
Vas-y, c'est pas
oui,
grave.
Ouais,
vas-y,
si,
vas-y.
Oui,
c'est pas grave, juste
fait,
pour la blague.
Rapide. On vous propose de ramener votre lesbienne, non, ramener votre BD lesbienne, parce
ramenez
qu'on va se retrouver. Alors, vous pouvez ramener votre lesbienne et votre BD lesbienne qui portera les BD pour justement se retrouver ensemble pour discuter des lesbiennes dans les romans graphiques, pour ramener vos BD, ramener les trucs qui vous ont touché, qui vous ont fait pleurer, qui vous ont fait rire, pour qu'on puisse découvrir ensemble, de parler de l'importance de la représentation des personnes LGBT, donc là surtout des lesbiennes, vu qu'on est le 8 mars. Dans la BD, et de pouvoir s'échanger des tips, des trucs à lire. Et donc ça risque d'être un chouette moment. Moi, j'ai trop hâte. J'ai au moins 40 kilos de bouquins à ramener. Et je ne suis pas la seule.
Voilà. C'est ça, en fait. On va avoir trop de matériel, je pense.
C'est ça, c'est ça. Le 23 mars, nous aurons une projection organisée par le Planning Familial à 20h30 au cinéma Opérins du film Mon nom est Clitoris.
My name is Clitoris.
Normalement, il n'y aura pas de god à gagner, mais on pourra gagner quand même des exemplaires de
code. Alors, on dit ça parce que le Planning Familial, l'année dernière, a fait gagner des vibromasseurs. Voilà, et c'était franchement chouette. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'elle refasse ça.
Surtout que les gagnantes, il y a eu moi et Mo. Donc voilà, on est...
Non, il n'y a pas eu que nous.
Oui, mais
on a été plein à être gâtés. Mais...
Daikiri était 100% winneuse.
100% gâté.
C'est beau, c'est beau.
Sponsor.
Et tiens, je rattrape les... Alors là, je vais vous faire un petit focus prévention féminine pour ce 8 mars. Le 9 février, de 14h à 17h, à 20h, logiquement, au local de AIDS, il y a la permanence de santé qu'ils font chaque jeudi. Mais là, ils feront un focus spécialement pour les femmes. Donc n'hésitez pas à y passer. Et au local d'Execo, le 24, il y aura le Cégide qui viendra de 19h à 21h. Donc là aussi, vous pouvez venir vous faire tester. Et on va justement essayer de s'arranger pour faire un focus spécial pour les femmes, parce qu'on sait que vous êtes les mauvais élève de la prévention et que vu qu'on ne s'occupe pas de vous, vous n'allez pas avoir...
Non, les pires élèves, c'est les seniors.
Ouais,
disons-le nous, bah c'était seniors, l'axe de AIDS la cette coupe. Année. Mais c'est vrai qu'entre femmes, on se dit « bois. Voilà. »
Et puis, on a peu de campagnes envers nous, alors que bah, on peut être contaminé par le sida comme tout le monde. Donc, du coup,
comme par plein d'autres choses aussi que le sida aussi, les gens. Hein, oui.